Des eaux et forêts. Je cite aussi l'ancien élève en sciences de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, ainsi que l'ancien élève de l'école nationale d'administration promotion Léonard de Vinci, 1985. Nicolas Normand, un énarque donc, comme on le dit là-bas dans le microcosme intellectuel parisien. Conseiller des affaires étrangères hors classe, vous avez servi comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Bamako au Mali, pays voisin du Sénégal entre 2002 et 2006, et juste avant d'atterrir au pays de la Teranga le 1er août 2009, vous étiez ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Brazzaville au Congo de 2006 à 2009 en votre qualité de diplomate français. Vous avez travaillé également comme premier conseiller à Pretoria en Afrique du Sud et conseiller politique à Washington aux États-Unis. Vous remplacez Jean-Christophe Rifin, ambassadeur de France, qui ne faisait pas dans la langue de bois, qui a eu à dire que la candidature du président Ablaye Wade à plus de 80 ans était une curiosité. Est-il facile de remplacer Jean-Christophe Rifin ?
Bon, c'est certain que Jean-Christophe Ruffin était une star médiatique, c'est un écrivain important. C'était pas non plus un diplomate professionnel. Moi, je suis un diplomate professionnel. Alors, c'est vrai que Jean-Christophe faisait des déclarations parfois fracassantes, mais l'important, c'est d'exprimer surtout la position de la France.
Et il l'exprimait toujours.
Déclaration que vous me citez n'est pas exactement celle, aujourd'hui en tout cas, des autorités françaises. Puisque nous ne faisons pas de commentaires sur les candidats à l'élection présidentielle au Sénégal. Nous pensons que c'est une question intérieure sénégalaise et qu'il est important que les élections se déroulent en toute liberté et que les Sénégalais puissent exprimer leur choix sans influence, sans ingérence de tel ou tel pays étranger et de tel ou tel ambassadeur également, bien sûr.
Ce qui veut dire pour vous que la candidature du président Wade à plus de 80 ans n'est pas une curiosité.
Alors moi je ne ferai pas de commentaire, ni pour dire que c'est une curiosité, ni pour dire le contraire. Je dis simplement, nous ne commentons pas ni celle, les candidatures, ni celle du président Wade, ni celle de Youssou N'Dour, ou de Tanor Dieng, ou de Nias, ou de Macky Sall, ou de Idrissa Seck, ou des autres candidats. Nous pensons que tous les Sénégalais qui le souhaitent et qui le sont autorisés par la Constitution peuvent se présenter. L'essentiel est que le Sénégal reste fidèle à son patrimoine de démocratie. C'est quand même un des tout premiers pays en Afrique qui a instauré la démocratie. Il faut éviter tout dérapage dans ce processus démocratique. Et c'est ça pour nous l'essentiel. Donc nous ne nous ingérons pas dans le choix des Sénégalais et dans le commentaire donc des candidatures. Nous ne sommes ni pro, ni anti-Wade, ni pro-opposition, ni contre l'opposition. Nous considérons que c'est une affaire intérieure sénégalaise. Donc, respect de la souveraineté sénégalaise, ça c'est le premier point. Mais s'il y avait des dérapages dans cette élection, s'il y avait des fraudes ou quoi que ce soit de répréhensible, nous le dirions en même temps. C'est-à-dire que notre amitié avec le Sénégal signifie quand même que nous regardons ce qui se passe au Sénégal, nous ne sommes pas du tout indifférents, et nous défendons des valeurs démocratiques communes, et nous souhaitons que le Sénégal reste totalement fidèle à ces valeurs.
La candidature de Youssou N'Dour, l'une des dernières à être annoncée, puisque vous en avez parlé, elle a fait le buzz dans les médias étrangers, surtout en France. Elle vous laisse indifférent. Quelle signification elle a pour vous, la candidature de Youssou N'Dour ?
Alors, rien de ce qui se passe au Sénégal ne me laisse indifférent, hein, c'est clair. La candidature de Youssou N'Dour, elle est importante parce que c'est une star internationale. C'est un citoyen sénégalais parmi les plus connus dans le monde. Et en France, il a beaucoup de prestige. C'est un très grand artiste, donc c'est important. Et le fait qu'il se lance ainsi dans la politique n'est pas anodin, c'est pas indifférent. Pourquoi ? Parce que ça va attirer les projecteurs du monde entier, et en tout cas de France, sur ce qui se passe. Donc le côté peut-être déjà bénéfique, on peut le dire, de cette candidature, c'est qu'elle va attirer encore plus l'attention internationale sur l'élection au Sénégal. Et d'une certaine façon, elle rajoute de la pression pour que cette élection se déroule de façon honnête et transparente et régulière.
Quand il dit qu'il gagne dès le premier tour, comme le président Wade, vous le prenez au sérieux ?
Alors moi, je ne fais pas de commentaires sur les chances des candidats. En plus, c'est très difficile, objectivement, de savoir, puisqu'il n'y a pas de sondage comme il y en a en France. Et donc, moi, je ne sais pas quels sont les candidats les mieux placés, quels sont les pourcentages possibles des uns et des autres. On verra. Une élection n'est pas déterminée à l'avance. Et c'est les électeurs qui vont décider. Il y a de nombreux candidats et que le meilleur gagne, voilà.
Le Sénégal, vous l'avez souligné, va donc organiser une élection présidentielle le mois prochain. Élection qui met en lice une vingtaine de candidats déclarés, dont le président Wade, qui n'a pas droit à un nouveau mandat pour une partie, en tout cas, des acteurs politiques et de la société civile au Sénégal. Diriez-vous, comme un conseiller diplomatique à l'Élysée, qui nous l'a confié le mois d'octobre dernier à Paris, que la situation au Sénégal suscite pour la France un grand intérêt et une grande attention ?
C'est tout à fait exact. On est extrêmement attentif au bon déroulement du processus électoral. Je l'ai dit. Alors, comment appuyons-nous ce processus électoral ? Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on est attentif. Il faut également appuyer, je crois, le bon déroulement. Nous l'avons fait en répondant positivement à une demande d'audit du fichier électoral. Vous savez que l'Union européenne et également les États-Unis, d'ailleurs, ont financé un audit indépendant du fichier électoral. Donc, je crois que c'est un élément important dans le processus. D'autre part, l'Union européenne, ainsi d'ailleurs que les États-Unis, ont été observateurs, membres observateurs du comité de veille qui a discuté de toute la préparation de l'élection et qui va, je pense, continuer son travail. Et puis, troisième élément, nous avons fortement appuyé l'idée d'avoir une mission d'observation européenne. Alors, c'est une chose importante, cette mission.
Qui va arriver dès le 20 janvier.
Absolument.
À presque un mois avant. Pourquoi
Elle arrive avant.
Ces précautions.
Parce que les missions qui arrivent le jour de l'élection et qui se contentent de regarder s'il y a des troubles ou pas, sont pas des missions qui font un travail approfondi. Là, cette mission européenne, elle va être nombreuse. D'abord, il va y avoir un très grand nombre d'observateurs. Elle va être dirigée par un parlementaire européen complètement indépendant. Elle va faire un travail approfondi sur les conditions de préparation de l'élection, sur le déroulement du scrutin, sur la proclamation des résultats par fidélité à la réalité. Et donc, c'est important parce que c'est la première fois dans un pays comme le Sénégal qu'une telle mission arrive. Et ces missions...
La première fois
C'est une
élection sous haute surveillance.
Exactement.
Pourquoi ? Avez des craintes ?
Oui, on a certaines craintes.
En fait, quelle nature ?
Alors, je vais préciser les choses. Oui. Les missions d'observation européenne, effectivement, n'arrivent pas dans les pays où il n'y a pas de problème. Disons, pas de risque du tout. Elles sont... utiles, où elles sont demandées... il faut évidemment l'accord des autorités du pays pour que ces missions arrivent. Ça a été le cas, c'est le cas au Sénégal. Lorsque la situation est assez tendue, qu'elle présente certains risques, qu'il y a quelques problèmes de violence, comme il y en a déjà eu, ça juste plus la contestation à laquelle vous faisiez allusion sur le droit constitutionnel du président sortant. Tout ceci crée un contexte particulier qui a justifié l'envoi d'une telle mission. Ces missions, effectivement, ne sont envoyées que dans des pays où les élections sont susceptibles de rencontrer des difficultés. Pas forcément, on l'espère, on souhaite évidemment, et il est tout à fait possible que les élections se déroulent de façon très sereine, c'est notre souhait le plus cher. Mais dès lors qu'il y a une situation un peu tendue, préélectorale, et des risques, il est important que cette mission vienne. Alors bien entendu, elle n'est qu'un des éléments. Fondamentalement, c'est une affaire... une responsabilité des Sénégalais d'avoir une élection paisible, une responsabilité aussi bien des autorités que de la société civile et que de l'opposition. Chacun doit contribuer à créer ce climat serein.
Dans ce processus électoral, il y a la non-adoption du bulletin unique rejeté par le président Abdoulaye Wade, qui est candidat déclaré à sa propre succession. Vous regrettez cette non-adoption ou
Écoutez,
ce n'est pas gênant pour vous ?
C'est une décision souveraine des autorités sénégalaises. Il est certain que le comité de veille avait recommandé ce bulletin unique. Ça a été donc une recommandation appuyée, c'est vrai, par l'Union européenne, par les États-Unis, en tant qu'observateur. Maintenant, c'est aux autorités de décider. Hein. Voilà, c'est une décision souveraine.
Souveraine, mais qui avait fait l'objet d'un consensus.
Oui, mais c'est quand même la responsabilité des autorités politiques de recueillir des avis et de décider. Hein.
Très bien. Alors, le département d'État américain a dit dernièrement dans un communiqué de son chargé des affaires africaines que le président Wade ne pouvait pas se représenter au terme de la Constitution, reprenant l'argumentaire de nombreux juristes sénégalais. Le gouvernement français est-il en phase avec son homologue américain qui est un vieil allié de la France, comme notamment dans la crise politique récente en Côte d'Ivoire?
Alors, les États-Unis ont pris effectivement une position semblable à celle que vous décrivez. C'est le seul pays qui l'a fait. Aucun pays européen, ni l'Union européenne, ni la France n'ont été précises de cette manière. Ils ont simplement dit, enfin, la France, c'est notre cas, mais c'est aussi le cas des autres pays européens et de l'Union européenne en tant que telle, que nous souhaitons que l'élection se déroule dans un climat serein et de manière transparente. Et la France et les autres pays ne se sont pas prononcés sur la candidature du président sortant ou de tel ou tel autre candidat. Nous estimons que c'est au peuple sénégalais et aux institutions, puisqu'il y a le Conseil constitutionnel également qui est partie prenante, de se prononcer sur ce sujet.
Est-ce que c'est pas parce que vous sous-traitez un peu votre diplomatie par le biais des Américains?
Alors ça ne ferait pas plaisir à mes collègues américains d'entendre ce genre de choses, parce que naturellement, une grande puissance comme les États-Unis ne sous-traite pas la diplomatie française. D'abord parce que il n'y a pas de raison, nous agissons directement quand nous avons des choses à dire. Deuxièmement, les Américains sont évidemment totalement autonomes par rapport à nous. On se parle, c'est vrai, entre puissances, mais chacun a sa position, voilà.
Mais vous savez que c'est la décision du Conseil constitutionnel très attendue. Les acteurs font des déclarations même guerrières. Certains disent si cette candidature est validée, il y aura des troubles. Si elle n'est pas validée, également la même chose. Est-ce que vous n'avez pas de crainte à ce sujet? D'autant plus que dernièrement, il y a eu un mort, des nervis envoyés chez des opposants. Ndiaga Diouf qui est tué.
Alors écoutez, si je vous l'ai dit, on a certaines craintes sur le bon déroulement du processus électoral à cause précisément de l'incident, entre autres, que vous mentionnez. Hein. Nous formons un vœu solennel que les Sénégalais décident en toute démocratie, dans le respect des règles. Alors nous suivons la situation de près et sur cet incident dont vous parlez, c'est-à-dire le fait qu'une personne, un nervi apparemment, a été tué par Barthélémy Diaz, c'est un incident que nous déplorons. Je dois dire que le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères...
La justice ne dit pas pour le moment que c'est Barthélémy Diaz.
C'est ce que disent les journalistes. Et puis surtout, ça a été filmé quand même. Moi, j'ai pu voir une séquence filmée. Alors, je ne sais pas exactement qui tirait, mais il y avait quelqu'un qui a tiré et il y a eu un mort. Hein. Oui. C'est au juge, effectivement, de préciser exactement les faits. En tout cas, il y a eu une déclaration du porte-parole officiel donc des affaires étrangères là-dessus. Je vais vous la lire parce qu'elle est passée peut-être un peu inaperçue. Or, seule la France a réagi à cet événement. Vous parliez des États-Unis tout à l'heure, ou de l'Union européenne, j'en parlais aussi. Il y a une seule nation qui a réagi, c'est la France. Voilà ce qui a été dit le 23 décembre, c'est-à-dire au lendemain de cet incident. Nous suivons la situation de près, c'est le porte-parole qui le dit. Nous avons pris connaissance des graves incidents qui se sont déroulés hier, le 22 décembre, près de la mairie de Mermoz et également au domicile de M. Abdoulaye Batili, qui visiblement était poursuivi par des nervis à bord de véhicules. Déclaration officielle française. Ces incidents se sont traduits par la mort d'une personne. Nous déplorons cette flambée de violence qui n'a aucune place dans un pays comme le Sénégal. Je poursuis la déclaration. Notre ambassadeur, avec tous ses collègues européens sur place, est en contact avec les autorités sénégalaises en plaidant pour que toutes les mesures soient prises pour que de tels incidents ne se reproduisent plus. Donc voilà, je crois que c'est clair.
On peut supposer peut-être que les autorités sénégalaises ont été sensibles à votre interpellation. Il y a eu l'arrestation parmi les accusés, en tout cas dans cette affaire, comme étant un des commanditaires, d'un garde du corps du président Wade, qui a été placé sous mandat de dépôt, mais puis immédiatement libéré, même s'il est placé sous contrôle judiciaire. Votre commentaire, est-ce que véritablement votre message est entendu là?
Bah écoutez, on espère que ce message est entendu, mais c'est effectivement la justice sénégalaise de suivre de très près cette affaire. Il y a eu une personne tuée, il y a eu également une provocation. Il y a peut-être des torts qui sont partagés, n'est-ce pas? Et donc c'est au juge de déterminer quels étaient ses nervis, d'où ils venaient, quel type de provocation et pourquoi il faisait ce genre de provocation. Et c'est également au juge de voir si la réaction était appropriée ou pas, si c'était une légitime défense ou non, etc. Donc ça, c'est le travail de la justice. Moi, je ne commande pas, mais je constate effectivement que les premières mesures semblent indiquer un fonctionnement normal de la justice. Voilà.
Mais en même temps, le président de la République qui dit dans une interview France 24 RFI que son parti ne va pas se laisser faire, qu'est-ce que vous en dites ?
Alors, ce que j'en dis, c'est qu'il faut faire évidemment très attention à ne pas s'écarter des règles démocratiques qui ont fait la fierté du Sénégal et qui ont fait le modèle sénégalais, en quelque sorte, modèle admiré pour sa démocratie qui fonctionne sans violence. Donc, je réprouve les réactions violentes, en particulier l'utilisation de nervis, d'où qu'ils viennent. Parce que personne n'a le monopole de la violence dans ce genre de processus, peut-être. Et donc, il faut faire très attention d'où que vienne la violence. Nous, nous ne pouvons que la réprouver. Il faut suivre les règles démocratiques habituelles, régler les problèmes politiques par les voies démocratiques et par le vote.
Il se trouve que les acteurs politiques et même de la société civile qui sont opposés à cette candidature du président Ouad disent mais les partenaires traditionnels du Sénégal doivent lui dire clairement qu'il n'a pas droit à un nouveau mandat.
Alors écoutez, j'ai répondu sur ce sujet. Effectivement, il y a ce type de demande qui est faite. Mais les autorités françaises et les autorités d'autres pays aussi ont estimé qu'on ne devait pas s'ingérer dans ce processus et que c'était une responsabilité fondamentalement sénégalaise et également des institutions sénégalaises pour le Conseil constitutionnel. Et donc, c'est aux Sénégalais de décider en toute démocratie qui peut être candidat et ensuite de voter pour leur candidat et d'élire le meilleur candidat.
Vous concernez personnellement ces accusations disant que vous étiez favorable au pouvoir, l'opposition a eu à le dire à un moment donné. Qu'est-ce que c'est devenu ?
Oui, écoutez, si elle l'a dit, c'était avant mon arrivée. Hein. Je crois qu'effectivement, avant mon arrivée, il y a eu une crainte. Je n'ai pas vu, heureusement, de déclaration, en tout cas officielle, de l'opposition me critiquant sur cet aspect. Mais soyons très clairs, moi je suis ici un diplomate, je ne suis pas un partisan, un militant, je ne suis ni pro ni anti-Ouad, même chose pour les candidats de l'opposition. Je suis accrédité auprès du président de la République, bien entendu, donc j'ai un dialogue régulier avec lui, mais je souligne que j'ai un dialogue tout à fait serein et souvent amical aussi avec tous les leaders de l'opposition. La position française, c'est que je dois parler avec tout le monde, tant avec le président qu'avec les principaux responsables de l'opposition. Tout le monde l'admet, hein. Je crois que le président Ouad l'admet sans difficulté. Les leaders de l'opposition admettent sans difficulté aussi que je parle avec le président Ouad, c'est normal. Et donc, je ne pense pas que je puisse être critiqué là-dessus, parce que très objectivement, je fais attention, je fais des efforts pour voir les uns et les autres et les écouter tous.
Alors, je rappelle que l'émission Le Grand Jury sur la RFM reçoit aujourd'hui l'ambassadeur de France au Sénégal, son Excellence Monsieur Nicolas Normand. Mais franchement, est-ce qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, un échange de bons procédés entre Paris et Dakar? Sur, par exemple, l'affaire libyenne, le président Ouad s'est engagé à fond pour soutenir la position de la France jusqu'à ce que Kadhafi quitte le pouvoir et qu'il soit finalement tué. Échange de procédés qui consiste à dire « Soutenez-nous dans la crise libyenne, nous appuyons votre candidature ».
Alors écoutez, bon, d'abord j'ai expliqué qu'on n'appuyait pas telle ou telle candidature. Il n'y a pas de candidat favori de la France. La France n'a pas de candidat. Ça c'est clair, je le répète, je le souligne, la France n'a pas de candidat. Ça c'est très clair. Donc il ne peut pas y avoir eu d'échange. Par ailleurs, le président Ouad a décidé en toute souveraineté, et lui-même sans demander notre avis, d'aller à Benghazi et de reconnaître le Conseil national de transition libyen. Moi, je, en toute vérité, en toute franchise, je n'ai jamais fait de démarche auprès du président Ouad, et ça à Paris de la même manière, pour demander au président Ouad d'intervenir dans ce dans cette question. C'est une décision du président Ouad d'avoir été le premier chef d'État africain à soutenir l'opposition libyenne et même à se rendre sur place avant que cette crise soit dénouée. Donc il n'y a pas eu du tout de marchandage diplomatique. C'est tout à fait faux. Je dément formellement cette rumeur.
Pourtant, ce n'est pas ce que dit exactement un certain Bernard-Henri Lévy. La guerre sans les mains, un livre dans lequel il raconte comment il a réussi, avec l'aval du président Sarkozy, à obtenir l'engagement du président Ouad dans le combat contre Kadhafi. Des propos à prendre au sérieux, n'est-ce pas? Surtout quand ils viennent d'un conseiller, on dira officier du président Sarkozy, mais aussi et surtout un homme classé à la 22e place des 100 personnalités les plus influentes du monde de la revue américaine Foreign Policy de décembre 2011.
Alors écoutez, je ne crois pas que Bernard-Henri Lévy ait mentionné un quelconque marchandage, ni même des pressions.
Pas de, marchandage, ni en même... disant en tout cas, il a réussi à convaincre le président Ouad.
Alors c'est possible que Bernard-Henri Lévy ait eu une influence auprès du président Ouad, mais Bernard-Henri Lévy, c'est une personnalité indépendante, ce n'est pas un conseiller ou un diplomate.
Quand même officieux.
Non, il n'avait pas de mandat, à ma connaissance, à ce sujet. En tout cas, c'est vraiment pas passé par le réseau diplomatique. Moi, je n'étais pas informé de ça. J'ai appris que Bernard-Henri Lévy était venu à Dakar avec la délégation du Conseil national de transition libyen. Je l'ai appris après coup, d'ailleurs.
Alors, aujourd'hui, vous reconnaissez des risques peut-être de troubles au Sénégal liés à cette élection présidentielle, surtout à la candidature du président Ouad. Est-ce que, pour autant, vous agissez en direction de vos ressortissants, des alertes leur disant « quittez le Sénégal parce qu'il y a danger » ?
Non, pour l'instant, il n'y a pas danger. Nous ne leur disons pas de quitter le Sénégal, naturellement. Mais nous surveillons la situation de près. C'est-à-dire, quand il y a des grandes manifestations, quel que soit l'organisateur de ces manifestations, nous informons simplement nos compatriotes français. Attention, il y a tel événement dans tel quartier. Donc, dans vos déplacements, peut-être évitez d'aller là où il y a beaucoup de monde, etc. Mais pour l'instant, nous n'avons pas donné de consignes particulières. Contrairement aux États-Unis, je crois. Simplement, nous surveillons évidemment la situation de près. Et si les choses devaient rendre nécessaire de tels conseils, nous le ferions. Mais ce n'est pas la situation présente.
Un auditeur aimerait savoir, ça c'est une question d'un auditeur, si l'ambassadeur de France, à travers le consulat, est en train d'envoyer des SMS aux ressortissants français pour leur demander de rentrer un moment en France si possible. Et puis une autre rumeur qui ferait état de la fermeture du lycée français Jean Mermoz de Dakar pour une durée de 2 mois et demi. Est-ce que vous confirmez tout cela?
Non, je ne confirme pas du tout ces rumeurs. Non, absolument pas. Pour l'instant, il n'y a pas de consigne particulière. C'est trop tôt de toute façon et pour l'instant il n'y a pas lieu de s'alarmer.
Ouais. On reçoit l'ambassadeur de France au Sénégal, Nicolas Normand. Un autre volet de notre échange, c'est la coopération franco-sénégalaise. Quels en sont les grands axes prioritaires aujourd'hui?
Alors d'abord, c'est la première coopération pour le Sénégal. Je veux dire, nous sommes le principal partenaire puisque nous apportons toutes aides confondues, environ 100 milliards de francs CFA chaque année au Sénégal. Alors les grands axes, ils sont dans un document qui a été négocié il y a plusieurs années avec les autorités sénégalaises. Il y a trois axes principaux. Il y a les infrastructures. Alors nous appuyons par exemple l'autoroute à péage. Nous appuyons l'aéroport, le nouvel aéroport, le plan TACAL de rénovation de la production et de la distribution d'électricité, mais aussi l'adduction d'eau potable, l'assainissement, etc. Tout ça, ce sont les infrastructures. Le deuxième grand axe, c'est le secteur productif, c'est-à-dire que nous appuyons l'économie sénégalaise d'une façon également importante dans les différents secteurs, agriculture, etc. Et le troisième axe, prioritaire, c'est la formation et l'éducation. Récemment, par exemple, nous avons créé 3 nouveaux centres de formation professionnelle à Dakar. Il y en a un qui a été visité par Madame Royal il y a quelques jours. Mais il y a d'autres secteurs assez nombreux, comme la santé, l'appui à la gouvernance aussi, c'est-à-dire l'appui au ministère des Finances, à la direction des douanes, à la justice, à la police, à l'armée aussi. Tout ce qui est gouvernance, aussi bien civile que policière et militaire, dans la coopération. Et puis, nous avons, ça c'est la coopération d'État à État qui est très importante, mais il existe toute une forme de coopération qui est dirigée directement vers la société civile. C'est ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Hier soir, Madame Royal, qui est présidente d'une région française, Poitou-Charentes, est repartie après avoir visité la région de Fatick. Et c'est l'un des 85 partenariats qui existent entre des collectivités locales sénégalaises et françaises. Et ça fonctionne très bien. Et il y a d'autres formes de coopération avec la société civile. Nous avons 2 fonds à l'ambassade de France qui financent directement des ONG sénégalaises, des petites associations de femmes qui produisent l'agriculture ou bien également des écoles locales, toutes sortes de petites initiatives locales. Et puis, il y a encore un fonds important pour financer tous les projets qui ont un lien avec la migration, c'est-à-dire appuyer l'épargne des Sénégalais qui vivent en France et qui veulent investir au Sénégal ou qui veulent, lorsqu'ils se regroupent en association, aider des projets dans leur pays d'origine au Sénégal. Nous appuyons également ces initiatives pour des montants importants. J'ajoute que nous avons aussi des volontaires français qui sont un peu partout au Sénégal et qui appuient des petits projets de la société civile. Voilà. Et puis il y a aussi une assistance technique. Nous avons près de 90 personnes qui sont dans l'administration sénégalaise et qui appuient à leur demande les ministères techniques sur des projets qui nécessitent une expertise particulière.
Tout cela chiffré, ça représente quoi une année, par exemple?
Sur une année, ça représente exactement 100 milliards de francs.
De francs CFA,
oui. C'est-à-dire 150 millions d'euros.
On va insister sur 2 volets de cette coopération parce qu'elle est vaste. C'est d'abord la crise énergétique et puis nous parlerons tout à l'heure de la question de l'émigration ou de l'immigration. C'est selon. Sur la crise énergétique ou le volet énergétique pour être plus précis, il y a l'implication de l'Agence française de développement dans un domaine certes à enjeu social mais aussi à enjeu électoral. Êtes-vous guidé par cela?
Alors non, on n'est pas guidé par un enjeu électoral mais en fait on est guidé par le fait que de toute évidence cette question de l'énergie est vitale pour le développement du Sénégal et pour la croissance. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est le FMI et la Banque mondiale. Dans leur dernier rapport, ils ont souligné l'importance de ce secteur. Et puis toute la population le sait, c'était un secteur en crise. Les entreprises aussi en souffraient beaucoup. Donc je crois que c'était une priorité de contribuer à l'amélioration de la production d'électricité, ce qu'on appelle le plan TACAL. Et de ce point de vue-là, je crois que les choses se déroulent bien. Il y a 4 points, je crois que je vais les rappeler. D'abord, il y a des capacités de production d'électricité supplémentaires qui ont été ajoutées par la location de groupes. Ça, c'était dans l'urgence. Ensuite, on a réglé la question de l'approvisionnement régulier en combustible. Quand je dis « on », c'est les autorités sénégalaises, là. Et notamment, ils ont mis en place un fonds de soutien à l'énergie qui permet d'approvisionner régulièrement en combustible les différentes centrales. Troisième point, et c'est là que la France intervient plus tôt, c'est la réhabilitation des centrales existantes, les centrales de la Sénéleg. La France a donné 60 millions d'euros, à peu près 40 milliards de francs CFA, pour réparer les centrales qui ne marchaient pas, pour les entretenir. Et donc ça va de façon très importante augmenter la puissance et sécuriser également ce qui fonctionne déjà. Et là, c'est un élément très très important. Et puis, il faut aussi, au-delà de la location, acheter quand même, installer des nouveaux groupes, parce que la demande d'électricité augmente aussi avec le développement du Sénégal. Tout ça, c'est du court moyen terme. Et à plus long terme, ce qu'il faut, c'est abaisser le prix de l'électricité, c'est-à-dire modifier un peu le système. Pour l'instant, il y avait de nombreuses petites unités de production, et ça coûtait assez cher. Parce que les plus petites fonctionnent au fioul léger, qui est le carburant le plus cher. Et il faut viser des grandes unités de production qui fonctionnent avec des coûts de revient faibles. Et ça, c'est le charbon. Et donc, on met environ 36 mois à construire une nouvelle centrale. C'est long. Et donc, ça peut pas se faire tout de suite. Et là, c'est prévu aussi, c'est les effets à plus long terme du plan TACAL, et il va y avoir des constructions de centrales à charbon, et ça devrait permettre de réduire fortement le coût de production de l'électricité.
Vous parlez quand même avec beaucoup d'aise de ce dossier, monsieur l'ambassadeur. Qu'est-ce qu'il y a, vous tenez l'unité de commandement?
Pas du tout, non, non. Non, mais en revanche, il y a une assistance technique française forte, puisque EDF, qui est quand même le grand groupe électrique français, est impliqué directement et ils sont conseillers du ministère chargé de l'énergie. Donc c'est vrai qu'en plus de la réhabilitation des centrales de production de la Sénélec, nous avons aussi une assistance technique sur l'ensemble du processus. Et vous savez qu'il y a eu un audit au départ. Nous avons participé, enfin EDF a participé à l'audit, mais au-delà de l'audit, EDF participe au conseil technique et aussi à la formation des cadres de la Sénélec. Donc effectivement, la France est impliquée. Mais je vous le dis, ce n'est pas pour des raisons électoralistes, parce que ça va continuer après les élections. On n'est qu'au début. Nous espérons continuer avec les autorités qui vont être issues des élections. C'est un plan sur de nombreuses années. Alors ça s'appelle, s'il y a alternance... ça s'appellera peut-être pas plan TACAL, mais de toute façon, il est nécessaire de rénover le système de production et aussi de distribution. Il y a aussi le réseau de distribution qui doit être rénové.
Vous n'écartez pas qu'il puisse y avoir une alternance?
Non, je ne l'écarte pas, parce que c'est à ça que sert le vote. Hein. Si on savait à l'avance, si les choses étaient déterminées à l'avance, ce ne serait pas la démocratie. La démocratie, c'est la possibilité d'alternance.
Alors, cette forte implication de la France à travers EDF frustre justement des cadres sénégalais de Sénélec qui disent, mais on nous met de côté alors qu'on a la compétence.
Alors, écoutez,
est-ce que vous faites attention à ça?
Oui, on fait attention à ça, mais moi, je n'ai pas entendu dire ça. Écoutez, c'est nouveau pour moi, cette information.
Il y en a beaucoup, d'ailleurs.
Ah oui? Bon, ben, c'est important, mais il faut faire très attention à ça, parce qu'il n'est pas question de se substituer à qui que ce soit, et surtout pas au cadre de la Sénélec. Moi, j'ai au contraire entendu dire par EDF que les cadres de la Sénélec étaient extrêmement compétents et que c'était un des atouts. Voilà, donc simplement, il faut recruter de nouvelles personnes aussi, il faudra former des jeunes, parce que c'est un secteur en pleine extension. Pour accompagner le développement économique du Sénégal, il faut augmenter la production d'électricité, pas seulement faire bien marcher ce qui existe, mais il faudra augmenter la production.
Alors, à côté de l'énergie, les télécommunications ne sont pas loin. Souvent, il y a ce débat au Sénégal sur la surtaxe sur les appels entrants internationaux. France Télécom, justement, actionnaire dans cette société Sonatel, actionnaire même majoritaire. Qu'est-ce que pense le gouvernement français de cette affaire d'appels entrants internationaux?
Alors, d'abord, l'entreprise française privée France Télécom n'est pas actionnaire majoritaire dans la Sonatel, ils ont 40 ou 42% des actions. Donc ils sont un actionnaire important mais minoritaire. Ça, c'est pas eux qui commandent. Hein.
Ce que je voulais dire ici, c'est que juste en termes d'actions, ils ont quand même le plus d'actions.
Oui, oui, ils sont le principal actionnaire, mais pas majoritaire.
Ok, on se comprend.
Voilà, tout à fait. Mais c'est aussi important quand même. La Sonatel n'est pas une société française, c'est une société sénégalaise, à majorité sénégalaise. Il faut quand même le rappeler, c'est important.
Oui, très bien.
Alors, pour cette taxe ou de cette surtaxe sur les appels rentrants, franchement, c'est une question de fiscalité sénégalaise. Donc, ça relève de la souveraineté et moi je ne peux pas me prononcer sur l'opportunité. Il y a simplement des aspects techniques, mais je pense que les autorités les étudient, les prennent en compte. Hein. C'est-à-dire, il faut surtout que cette taxe soit compatible avec les règles internationales de l'Union internationale des télécommunications, puisqu'il s'agit quand même de taxer un trafic qui vient de l'extérieur du Sénégal. Donc il y a un aspect international. Bon, c'est discuté à l'IUT en ce moment, donc on verra bien quelle est la position définitive de cette institution internationale. Et puis, c'est au Sénégal aussi de voir quel est l'impact économique de cette taxe. Bon, il y a des controverses, on les observe. Le point de vue de France Télécom, c'est qu'ils souhaitent se développer au Sénégal et ils ont besoin de sécurité et de stabilité juridique. Il ne faut pas changer les règles du jeu trop souvent. Évidemment, ça c'est vrai dans tous les pays et pour toutes les sociétés privées.
Leur point de vue, c'est quoi, clairement, pas appliquer cette taxe?
Ah ben si, je pense qu'ils l'appliquent parce qu'ils respectent les lois sénégalaises. Mais c'est certain, ils l'ont dit, ils ne sont pas favorables à cette taxe. Hein. Maintenant, la France...
Et vous, en tant que gouvernement, vous les rejoignez dans cette position?
Non, en tant que gouvernement français, on n'a pas fait de démarche officielle là-dessus. C'est quand même une relation entre une société privée et les autorités sénégalaises. Ouais.
L'immigration, monsieur l'ambassadeur, on est tenté de dire saltant pour les émigrés ou immigrés sénégalais en Europe avec l'assassinat récent de 3 d'entre eux en Italie et en Espagne. Ils ont été abattus froidement.
Bon, ben ça, c'est des lâches assassinats, c'est des choses absolument épouvantables que nous condamnons de la façon la plus ferme. Bon, ça ne s'est pas passé en France d'ailleurs. Mais de toute évidence, ce sont des actes ignobles. Alors moi, je ne connais pas les circonstances détaillées de ces événements, mais c'est des cas totalement isolés qui sont en général l'œuvre de déséquilibrés. Hein. Je veux dire, les assassins sont évidemment des déséquilibrés.
Déséquilibrés, mais on a surtout parlé d'actes racistes.
Alors,
les Nations Unies ont même réagi cette fois-ci sur la question, sur l'affaire en Italie.
Oui, tout à fait, mais le fait qu'il soit raciste contribue ou est un élément important de ce déséquilibre mental dont je parlais. Hein. Ça confirme que ce sont des déséquilibrés. Maintenant, la situation plus générale des immigrés ou des immigrés en Europe, il ne faut pas la déduire de trois crimes crapuleux de ce genre.
Hein. Mais en même temps, est-ce que ces actes de violence ne sont pas liés à une certaine stigmatisation des immigrés par les pouvoirs publics et un manque d'éducation à la tolérance de votre société?
Alors, ces problèmes de manque de tolérance, ça existe dans tous les pays. Hein. Mais la position officielle de la France, c'est que les immigrés qui sont en situation régulière, en tout cas, sont les bienvenus. Je crois que s'agissant des immigrés sénégalais qui vivent en France, il faut saluer le fait qu'ils ont beaucoup contribué au développement de l'économie française. Ils sont très bien intégrés dans la société française et ils se portent bien en France. J'ajoute que sur ces questions migratoires, il existe entre la France et le Sénégal un accord qui s'appelle de gestion concertée des flux migratoires, qui permet d'examiner ensemble régulièrement, de façon concertée, toutes les questions qui ont trait aux émigrés ou aux demandes de visa ou à la situation des Sénégalais qui vivent en France, hein, quel que soit leur statut, étudiants, touristes, etc. Donc ces questions sont discutées très régulièrement entre les autorités françaises et sénégalaises. Ça se passe sereinement, il n'y a pas de difficultés particulières. Donc moi je pense que les choses vont bien sur ces questions migratoires entre la France et le Sénégal.
Vous voulez dire que ce qui s'est passé à Florence, en Italie, concernant ces deux pauvres Sénégalais abattus, ne peut pas se passer en France?
Malheureusement, j'aimerais pouvoir le dire, mais on ne peut jamais empêcher ou écarter la possibilité qu'un fou, qu'un déséquilibré, qu'un extrémiste commettent un acte criminel. Malheureusement, ce sont des choses qui peuvent se produire. On l'a vu aussi, vous vous souvenez, dans d'autres pays, en Norvège récemment, mais c'était d'ailleurs contre des Norvégiens aussi. Donc il y a toujours, et aux États-Unis, il arrive très souvent que des déséquilibrés tuent d'autres personnes. Ce sont des choses qui peuvent se produire partout. Heureusement, ça ne s'est pas produit en France, et en particulier contre des Africains.
Pour le cas du Sénégal, quels sont les chiffres qui peuvent convaincre que la France traite correctement la question de l'immigration?
Eh bien, d'abord, il y a quand même environ 100 000 Sénégalais qui vivent en France. Il y a environ 10 000 étudiants sénégalais qui vivent en France. Chaque année, 2 000 jeunes Sénégalais partent étudier en France. Et ça se passe bien. Et je rappelle que les études sont gratuites, à part les frais d'inscription très minimes dans les universités. Donc c'est un effort même de la France, puisque ces études quand même ont un coût pour le budget de la France, mais on ne le fait pas payer au Sénégal ni aux étudiants. Et ensuite, je crois que sur la question des visas, alors bien sûr les visas c'est sensible, c'est toujours l'objet de récriminations, c'est toujours les incidents là où ça se passe mal dont on parle, mais nous délivrons environ 30 000 visas chaque année sans que ça crée des incidents, enfin pour ces 30 000 là, ceux qui font problème sont ceux qui sont refusés, environ 25% des demandes sont refusées. Mais nous avons donc 60...
En plus maintenant, des reconduites. Hein.
Alors,
il en ressort de presque 20 000 aussi par an. de la France.
Pour le Sénégal, beaucoup, beaucoup moins. C'est 200 ou 300 qui sont reconduits chaque année seulement, sur un flux qui rentre de 30 000 et sur un nombre de Sénégalais vivant en France de 100 000. Donc c'est extrêmement, extrêmement faible. Mais donc je peux dire que le taux d'acceptation des visas est le plus élevé de tous les pays qui sont représentés diplomatiquement au Sénégal, enfin des pays occidentaux en tout cas. Donc nous avons un très bon taux de délivrance et puis nous avons fait des efforts pour améliorer les conditions de délivrance, les conditions d'accueil des demandeurs de visas. Nous essayons de multiplier les visas de longue durée. Enfin, nous sommes très attentifs à cette question importante pour la relation bilatérale.
Il nous reste une dizaine de minutes, Nicolas Normand. On va vous amener à commenter cette déclaration de la patronne du FMI, le Fonds monétaire international, Christine Lagarde, votre compatriote, qui dit que l'Afrique va souffrir de la crise. Quand elle dit, c'est la crise de la dette, c'est la crise de l'euro en 2012. Commentaire.
Alors, il y a une crise en Europe, ça, c'est certain. Une crise à plusieurs égards. Le taux de croissance est très faible. Même chose, la crise aussi vaut pour les États-Unis aussi. Le chômage est élevé, on a près de 9% en France. Et puis l'endettement est très élevé également. Donc il y a une crise de l'euro, pas spécialement en France, mais il y a une crise pour certains pays périphériques de la zone euro. Et des mesures sont prises pour ça. Je peux les détailler, mais je crois que c'est pas votre souhait. Nous sommes en train de faire un peu le ménage économique en Europe et sans doute aussi aux États-Unis pour rétablir les grands équilibres, plus de discipline budgétaire, plus d'harmonisation entre les pays, des mesures pour réduire l'endettement, pour réduire le déficit budgétaire. Tout ceci, nous sommes en train de le faire en Europe, mais ça va prendre plusieurs années. Alors, est-ce qu'il va y avoir un impact sur l'Afrique ? C'est très difficile de le dire. Madame Lagarde semble indiquer, en effet, qu'il y a des risques pour la croissance dans les pays africains. Pour l'instant, l'Afrique, au contraire, échappe un peu à la crise mondiale. J'ajoute que c'est la zone du monde où le potentiel de croissance est peut-être le plus élevé, parce qu'il y a des besoins de développement très importants, parce que la population est jeune, parce qu'il y a des atouts très importants. Donc, moi, je pense que il y a des effets peut-être de moins de demandes venant de l'Europe, moins d'importations, mais à l'inverse, un certain nombre d'entreprises européennes voient que le marché européen fonctionne pas bien, est saturé, que la croissance n'est pas bonne en Europe, et ils viennent investir en Afrique, parce qu'en Afrique, il y a un potentiel de croissance plus fort. Donc ça marche un peu dans les deux sens. Bon, maintenant, si on revient aux prévisions officielles pour le Sénégal, la croissance, d'après le FMI, que vous citez pour le Sénégal, sera un peu supérieure à 4% l'année prochaine, donc comparable à celle de 2011, en 2012. Donc, on ne voit pas d'impact négatif, clairement.
Est-ce qu'en termes d'impact négatif, il n'y aura pas une réduction de l'aide publique au développement, par exemple ?
Alors, c'est trop tôt pour le dire, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on observe. Et je dois dire même que l'aide française au Sénégal a augmenté ces trois dernières années. Je vous parlais tout à l'heure de 100 milliards par an. Mmh. On n'était pas à ce chiffre-là il y a quelques années. Donc, on n'a jamais atteint un volume aussi important d'aide française au Sénégal qu'en 2011.
Alors, en parlant avec insistance de l'Afrique qui risque de souffrir de la crise en 2012, la crise de l'euro, ne nous prépare-t-on pas à une nouvelle dévaluation du franc CFA ?
Alors, écoutez, franchement, je pense que ce n'est absolument pas d'actualité, parce que lorsqu'il y a eu une dévaluation en 1994, il y avait eu quand même pendant deux ans avant des débats, en tout cas en France, sur l'intérêt économique ou non de faire cette dévaluation. Et puis ce genre de décision est prise par tous les chefs d'État réunis de la zone franc. Aujourd'hui, personne ne recommande, aucun économiste ne recommande une dévaluation. Donc elle ne présenterait aucun intérêt économique.
Le débat ne se pose pas en France ?
Non, il ne se pose pas. Personne ne le recommande. Donc il n'y a aucune raison de le faire.
On verra la suite. Et puis parlons très rapidement de la question libyenne, mais aussi ivoirienne. Le président Laurent Gbagbo a accusé devant la CPI, la France, d'avoir été en fait la puissance qu'il a capturée. Mais aussi, la France est critiquée en Libye avec cet assassinat du guide libyen Mouammar Kadhafi.
Alors bon, pour la Libye, je crois qu'il faut voir la situation telle qu'elle était. Ça fait 42 ans qu'un dictateur, Kadhafi, régnait en maître sur une population qui était en partie terrorisée. Une partie de cette population s'est révoltée. Il y a eu des manifestations de masse pour la démocratisation ou l'alternance.
Elle a été armée aussi.
Avec
la frappe de l'OTAN.
Oui, je parle avant l'intervention de l'OTAN. Je parle de la situation avant l'intervention de l'OTAN. Parce que l'intervention de l'OTAN, elle est arrivée en réaction à une situation en Libye. Et la situation en Libye était qu'il y avait un mouvement contre le dictateur et que ce dictateur réprimait par la violence et par son armée cette population. Donc il y avait des massacres de la population. Et c'est ces massacres qui ont interpellé la communauté internationale. Et c'est vrai que la France a eu un rôle important de saisir la communauté internationale, de débattre de ce sujet au Conseil de sécurité de l'ONU et d'obtenir un mandat qui lui permettait d'intervenir. Donc la France, la Grande-Bretagne et plusieurs pays arabes, et avec l'appui de la Ligue arabe, sont intervenus, et ça a pris la forme que vous dites de l'OTAN, pour empêcher le régime libyen et Kadhafi de tirer sur sa population et de détruire, d'assassiner, de massacrer une partie de sa population. C'est ce qu'on appelle la responsabilité de protéger. Voilà. Alors, ce n'est pas l'OTAN qui a tué Kadhafi, et ça, c'est déplorable d'avoir tué Kadhafi. Normalement, il aurait dû être arrêté et jugé selon des procédures garanties. Et ça, c'est une affaire entre Libyens, malheureusement, qui a mal tourné, puisqu'il n'aurait pas fallu le tuer de cette façon, c'est certain. Pour la Côte d'Ivoire, la situation est un peu différente. Il y avait un climat déjà de pré-guerre civile qui avait été stabilisé depuis un certain nombre d'années et il y avait un processus électoral qui était prévu et qui a abouti à une élection dans laquelle Gbagbo a perdu les élections et Ouattara a gagné ces élections selon l'ONU qui surveillait le processus et qui l'a déclaré. Et le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a déclaré le contraire. Donc il y a eu une divergence entre l'ONU, la communauté internationale et Laurent Gbagbo et ses institutions qui ont dit le contraire. Cette situation a créé, a relancé la guerre civile. Et à ce moment-là, on a vu de la même manière Laurent Gbagbo avec des armes lourdes qui tiraient sur sa population ou sur une partie de la population qui lui était opposée. Cette affaire de nouveau a été discutée au Conseil de sécurité. Il y a eu un mandat international autorisant la France à intervenir. Et la France est intervenue non pas pour arrêter Gbagbo, mais pour détruire les armes lourdes qui tiraient sur la population ivoirienne. Et ce sont des forces ivoiriennes qui ont arrêté Gbagbo. Personne ne peut le contester, ça a été filmé même. Maintenant, aujourd'hui...
Peut-être si n'eût été l'intervention de la France...
Oui, la France a tout à fait
évolué peut-être autrement.
Absolument, puisque nous avons détruit les armes lourdes de Gbagbo, donc nous avons rétabli un équilibre en faveur des forces légalistes, de celles qui étaient issues des élections.
Si vous accuse donc de l'avoir combattu, il n'a pas tort.
Oui, il a tort de dire qu'on l'aurait arrêté, mais il n'a pas tort de dire qu'on l'a combattu. Mais il était devenu totalement illégitime. Il se maintenait par la force. Et nous avions un mandat international.
La force...
Aujourd'hui, quand même, 6 mois après, la situation est quand même nettement meilleure. Je crois que la guerre civile est finie. La Côte d'Ivoire est repartie sur un bon pied. Donc si on n'était pas intervenu, peut-être que la guerre civile aurait continué. Il y a déjà eu 2000 morts du fait qu'il a refusé le verdict des élections, n'est-ce pas ?
Alors,
voilà.
La force, je mentionne au passage la réduction drastique, pour ne pas dire à la portion congrue, des forces françaises du Cap-Vert au Sénégal, le remplacement par la mission des éléments français au Sénégal, 300 seulement sur 1200. Mais la force, c'est... Monsieur l'ambassadeur, quelle est la vérité définitive sur les émeutes de l'électricité du 27 juin au Sénégal? Le ministre d'État Karim Wad a-t-il fait appel à l'intervention de l'armée française comme l'a prétendu, l'a soutenu Robert Bourgie, disant que M. Ouad lui en a parlé au téléphone?
Alors, très franchement, jamais la France n'a été saisie d'une quelconque demande de ce genre. J'ajoute que ça aurait été d'ailleurs impossible à envisager. L'armée française n'a rien à voir dans les affaires intérieures sénégalaises et donc il n'était pas question pour l'armée française d'intervenir dans ces émeutes. Maintenant, ces conversations téléphoniques de nature privée, comme toutes les conversations téléphoniques qui ont eu lieu entre un ministre sénégalais et Monsieur Robert Bourgie, moi je n'en connais pas le contenu. Hein. Chacun a donné sa version des événements. J'ai appris tout ça en lisant les journaux et je ne sais rien de plus là-dessus.
Vous ne les démentez pas, ces conversations téléphoniques?
Je ne peux même pas les commenter parce que je ne les connais pas.
Fini la France-Afrique?
Alors, qu'est-ce que la France-Afrique? Oui, je crois que c'est fini, mais qu'est-ce que c'était? C'était deux choses, des réseaux un peu occultes, mais ces réseaux, faut-il... leur attribuer autant d'importance. Je crois que les autorités françaises, comme comme tous les gouvernements du monde, ont besoin d'une diversité d'informations. Il y a les réseaux diplomatiques, il y a la presse, et il y a des gens qui étaient accusés de faire partie de réseaux qui donnaient également des informations. Bon, il n'y a rien de très répréhensible à cela. En revanche, ce qui était plus critiquable dans la France-Afrique, c'était des financements occultes, des transports d'argent sous forme de mallettes. Bon, apparemment, quand on regarde...
La République des mallettes.
La République des mallettes. Quand on regarde de près...
Payant.
Voilà, voilà, ce livre de Payant. Quand on regarde de près ce dont il s'agit, c'est des affaires anciennes. C'était pratiquement un ou deux pays d'Afrique centrale qui donnaient de l'argent à des partis politiques français. Bon, je crois que cette situation a été assainie par la législation française, que les chefs d'État africains eux-mêmes ne font plus ce genre de choses. Donc, il ne faut pas regarder les relations entre la France et l'Afrique par ce petit bout de la lorgnette. C'est du fantasme, ça appartient au passé. Et je crois que ce serait une vision très déformée des relations entre la France et l'Afrique de croire que tout se passe de cette façon-là.
Commentaire en 10 secondes, élection présidentielle en France en 2012 également. Il pourrait y avoir alternance, Sarkozy battu.
Et c'est le principe de toutes les élections, rien n'est exclu, on ne peut pas savoir à l'avance, c'est au peuple français comme ici au peuple sénégalais de se prononcer. Et voilà, en France il y a des sondages, ici il y en a moins, donc on verra ce qui se passera et que le meilleur gagne partout.
Merci Nicolas Normand, ambassadeur de France au Sénégal. Ça a été un plaisir de vous recevoir à l'émission Le Grand Jury de la RFM.